Je considère ceci comme un grand privilège d'être ici ce soir dans ce beau rassemblement de chrétiens, d'avoir cette occasion de vous parler de notre Seigneur Jésus, béni. Nous sommes tous ici en son honneur pour l'honorer. C'est bon d'être avec Frère Tony et Frère Williams, les deux présidents de ce chapitre ici à Tucson, et ainsi que celui de Phoenix. Nous avons un service là-bas samedi dernier. Nous avons certainement passé de grands moments à cet endroit là-bas, dans cette auberge Ramada, et nous attendons à y passer encore de grands moments à partir du 19 de ce mois, où c'est mon privilège d'y retourner pour un service supplémentaire. Nous avons, je pense, 4 soirs à partir du 19, et je pense que la Convention internationale des hommes d'affaires commence le 22. Le 23, je suis là jusqu'au 22, et alors j'aurai une soirée ou deux, je pense, à leur convention. Alors c'est un grand privilège pour moi que d'avoir l'occasion de me rassembler avec des chrétiens de différents endroits du pays pour exprimer mes sentiments et mon amour envers Christ avec eux et d'avoir ensemble cette grande communion fraternelle. Eh bien, je suis désolé de ne pas avoir été ici pour savourer ce bon repas que je sais que vous avez, mais je pense, j'étais ici en entrevue priant pour les malades et essayant d'aider quelqu'un le long du chemin. Et c'est un vieux monde malade dans lequel nous vivons. Tellement de maladies et de problèmes, mais au milieu de tout cela, n'est-ce pas merveilleux que nous ayons quelqu'un vers qui nous pouvons lever nos yeux au-delà de ces choses, regarder plus haut? Et s'il n'y avait pas de véritable Noël? S'il n'y avait pas un véritable Noël, eh bien, les choses ne seraient pas telles qu'elles sont ce soir. S'il n'y avait pas eu de Noël, il n'y aurait pas de salut. Et maintenant que nous approchons de nouveau de Noël, c'est dommage qu'on ait changé cela, sa véritable signification, la naissance de Jésus, au point que, eh bien, on dirait que le Père Noël a pris la place de Christ à Noël. Et cette fiction au sujet de Santa Claus descendant dans la cheminée, ayant sur son dos un sac de jouets et visitant le monde entier en une seule nuit, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est très bien si vous voulez raconter ça à vos enfants, mais on m'a enseigné, j'ai pensé que les Écritures disaient « tu ne mentiras point » et puis un jour, quand ils découvriront que le Père Noël n'existait pas, ils vous demanderont « est-ce que Jésus est pareil au Père Noël ?» car qu'ils verront qu'il n'y a pas de Santa Claus, je pense donc, pour ma part, que c'est mieux. Vous pourriez ne pas être de cet avis-là, je ne vous dis pas que comment élever vos enfants, mais s'ils vous surprennent en train de mentir là-dessus, alors ils diront un jour peut-être que pour l'autre, c'était aussi un mensonge. Alors, dites-leur la vérité, la pure et simple vérité. Ils sauront alors à quoi s'en tenir et ce que vous voulez dire. Ainsi, peu importe combien les choses à l'extérieur semblent mauvaises et ce qu'ils font là-bas, ça ne devrait pas nous empêcher de fêter Noël, ce qu'il devrait être. Vous voyez? Je pense que la lumière brille mieux dans les ténèbres. Plus il fait sombre, plus la lumière brille. Où il y a beaucoup de lumière, ce n'est pas remarqué. Mais plus il fait sombre, cette petite lumière va briller proportionnellement plus fort. Et souvenez-vous, les ténèbres ne peuvent aucunement subsister en présence de la lumière. La lumière est de loin plus puissante que les ténèbres, de sorte que celles-ci ne peuvent pas subsister en sa présence. Les ténèbres ne peuvent pas subsister quand le soleil se met à briller, car le soleil, la lumière du soleil, est tellement plus grande qu'elle chasse les ténèbres et que celles-ci disparaissent. Et un jour, ce monde ténébreux deviendra complètement lumière. Quand Jésus-Christ, le soleil de la justice, reviendra, là, nous n'aurons plus de ténèbres. En attendant, quand nous regardons dehors la nuit et que nous voyons la lune qui brille, la lune et le soleil sont maris et femmes, pour ainsi dire. En l'absence du soleil, la lune reflète la lumière du soleil sur la terre, donnant une lumière moindre, afin que nous puissions voir comment nous déplacer à l'aide de la lumière de la lune jusqu'à ce que le soleil se lève. Et alors le soleil et la lune deviennent un. la même chose. La lumière du soleil et la lumière de la lune, c'est la même lumière. C'est ce que devrait être l'Église du Seigneur Jésus-Christ, refléter la lumière de celui-ci pendant qu'il est absent de la terre dans son corps physique. L'Église devrait être le reflet de Jésus-Christ en ces heures sombres. Alors, qu'il y ait partout dans les rues le Père Noël et les guirlandes de Noël, nous devrions crier « C'est la naissance de Jésus-Christ et non la visite du Saint-Nicolas ». Nous vivons dans un temps horrible, sombre, et c'est le moment où notre lumière devrait vraiment briller. Maintenant, avant de lire la parole de Dieu, je me dis, nous devrions honorer sa parole. Comment honorons-nous sa parole? Nous honorons sa parole en la lisant et ensuite en la croyant. Eh bien, nous devons la lire. La foi vient de ce qu'on entend. Si donc, nous l'honorons en la lisant, alors nous aurons là, en la croyant, ce que nous avons lu. Ainsi donc, pour rendre les premières honneurs, levons-nous pendant que nous lisons sa parole. Pendant que je vais lire un passage des Écritures, nous nous levons pour honorer la lecture de sa parole. Je vais lire sur ce que je veux prêcher ce soir pendant juste quelques instants. Ce sera dans le livre de Matthieu, l'histoire de Noël, au chapitre 2 de Matthieu. Nous lisons ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du soir, Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi d'Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple, avec Hérode, fille, appelés en secret les mages et s'enquis soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Inclinons maintenant la tête juste un instant pendant que nous parlons à l'auteur de cette parole. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir du plus profond de notre cœur pour l'amour de Christ qui a été répandu dans nos cœurs en ces derniers jours par le Saint-Esprit. Nous te remercions de ce que nous avons le privilège de nous réunir pour t'adorer, ayant cette assurance bénie qu'un jour tu viendras pour ton Église. Nous te remercions de ce que nous sommes les porteurs de la lumière de cet âge, de ce que nous sommes ici prêts à manifester la parole promise pour cet âge dans lequel nous vivons. Sachant que depuis le commencement, tu avais donné ta parole, comme tu connaissais la fin, dès le commencement, pour chaque âge, tu as destiné une portion de ta parole à l'âge concerné. D'une manière ou d'une autre, nous ne savons pas comment cela est arrivé, mais dans chacune de ces âges, quand nous regardons dans ta parole, nous voyons qu'une onction est venue dans un âge donné et qu'elle a accompli cette parole. Et en ce jour où nous vivons, il y a une parole qui a été allouée, une promesse pour cet âge-ci. Nous croyons que le Saint-Esprit est ici maintenant sur terre, cherchant à trouver des cœurs pour manifester et accomplir, en la confirmant, la parole qui est maintenant prophétisée pour ce jour-ci et pour cette heure-ci. Quand nous regardons dans le passé, il y a 1900 ans, il y avait une parole de prophétie depuis le Jardin d'Éden sur la venue d'un Sauveur. Et quelqu'un est venu et accomplit chaque parole qui avait été prophétisée. Sa vie confirmait la parole de Dieu parce qu'il était la parole. La plénitude de Dieu habitait en lui. Il était la réponse et la plénitude de tout ce qu'avaient dit les prophètes. Et maintenant, ce soir, nous sommes de nouveau ici, nous approchons de la célébration de sa naissance. Et Seigneur, nous sommes désolés de savoir que même notre nation s'est enroulée dans une sorte d'histoire fictive au sujet de quelqu'un qui est supposé être un mythe légendaire, mais... Mais, ô Dieu, nous savons que le véritable croyant sait que c'est faux et que ce n'est pas que l'œuvre de l'ennemi pour distraire la pensée des gens et de la détourner du véritable Dieu vivant. Ô Dieu, nous prions que sa présence soit avec nous ce soir pendant que nous abordons ce récit de Noël. Accorde, Seigneur Jésus, que s'il y ait ici un homme ou une femme d'affaires ici dans ce bâtiment ce soir qui n'a pas encore accepté comme son sauveur, que ceci soit le soir où son propre cœur deviendra une crèche qui le bercera ce soir comme autrefois le Jésus rejeté, méprisé, le Messie de Dieu. Que les gens partent d'ici ce soir avec l'étoile du matin suspendue au-dessus d'eux, éclairant leur chemin jusqu'au jour où ils pourront traverser le Jourdain à la lumière de cette personne-là. Accorde-le, Père, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. D'habitude, je parle un peu plus longtemps. Ce soir, je ne vais pas chercher à prêcher car je suis enroué, mais j'aimerais présenter une petite scène sur ce récit de Noël. Il n'y a aucun doute que vous entendrez cela à plusieurs reprises et ce même passage des Écritures passera à la radio, dans vos télévisions et dans vos églises, vos aimables et fidèles pasteurs et vous les hommes d'affaires et ainsi de suite. Et ils vont entendre ce récit de Noël ou plutôt raconter ce récit de Noël. Eh bien, j'aimerais aborder ceci un peu différemment de la façon dont je l'ai fait samedi dernier au chapitre des hommes d'affaires de Phoenix sur le sujet pourquoi Jésus est-il né à Bethléem? Et il ne pouvait pas y avoir un autre endroit où il pouvait naître, vous voyez? Parce que cela parlait de son nom et de ce qu'il était. Et nous avons vu cela dans les Écritures que lui, Bethléem, il est la maison du pain de Dieu. Et il était le pain de vie de Dieu. Il n'y avait pas moyen, et cela nous révèle donc nous tous, les chrétiens nés de nouveau, nous sommes nés à Bethléem. Christ est la Bethléem de Dieu, la maison du pain de vie éternelle. Bon, ce soir, nous allons aborder cela différemment. Ce soir, je vais prendre comme titre, le Seigneur voulant, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ces messages, nous avons une idée ici selon ce que la tradition nous dit, il y avait trois mages. Mais nous ne savons pas si c'est vrai. La Bible ne dit pas qu'il y en avait trois. Néanmoins, j'ai eu le privilège de prêcher en Inde d'où ils venaient et ils voyageaient à trois. On les voit encore. Tout récemment, j'étais en Inde. Et là, vous les voyez en quelque sorte accroupis dans la rue, pendant la journée, avec leurs têtes appuyées les unes contre les autres, avec leurs turbans, ils sont là. On dirait en train de rêver ou en étant éveillés. Ils ne s'assoient jamais par terre. Ils s'accroupissent simplement. Et c'est pourquoi, à mon avis, nous croyons qu'il y avait trois mages. C'est parce qu'ils voyageaient à trois. Et les mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. En d'autres termes, nous avons vu son signe pour cet âge-ci, celui dans lequel ils vivaient. C'est ce qui avait été prophétisé. Et voyez, je crois que la parole de Dieu est éternelle. Car au commencement était la parole et était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. La parole ne peut donc jamais être changée. Elle est éternelle. C'est Dieu lui-même sous forme imprimée. La Bible, la parole de Dieu, il doit juger l'Église selon une norme. Il ne peut pas la juger suivant la norme d'aucun système que nous ayons fait, car tous nos systèmes sont faits de main d'homme. Et ça doit être jugé. Si donc vous voulez contester et dire non, je crois que vous avez tort là, Frère Branham, je crois que la nôtre ou un autre dirait, eh bien c'est la nôtre. Alors qui a raison, puisqu'il y a 900 et quelques différents systèmes? Dieu ne pourrait donc pas juger l'Église par 900 et quelques différents systèmes différents. Mais il n'y en aura qu'un seul. Et il dit qu'il jugerait le monde par Christ. Jésus-Christ. Et Christ est la parole. Par conséquent, nous serons jugés par la parole de Dieu. Maintenant, Dieu ne fait jamais rien sans avoir premièrement montré un signe. Il n'est jamais coupable de faire quelque chose sans avoir premièrement déclaré cela par son signe. Et ces mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient. Et ils se trouvaient en Orient quand ils l'ont vu. C'était à Babylone qui est située à l'Orient par rapport à Jérusalem. Et deux ans plus tard, ils étaient à l'Ouest. Et ils disaient, et nous sommes venus pour l'adorer. La tradition chrétienne nous présente un petit bébé couché dans une crèche avec les mages. Ce n'est pas le cas. Les Écritures sont contraires à cela. Les Écritures déclarent qu'ils sont allés auprès d'un petit enfant, pas un nouveau-né. Hérode a mis à mort tous les enfants à partir de 2 ans et moins, vous voyez. Ils considèrent le trajet qu'ils ont dû effectuer à dos de chameau pour arriver là. Cela leur a pris exactement 2 ans pour effectuer ce voyage, le parcours le long du fleuve du Tigre ainsi que la traversée. Nous avons vu son étoile quand ils étaient en Orient et nous avons venu à l'Ouest pour l'adorer. Maintenant, remarquez, aujourd'hui, Noël a changé. Eh bien, le véritable jour de Noël, nous, c'est un sujet de controverse, car on ne le connaît pas. La conception que nous avons de Noël, si jamais vous l'étudiez, nous prenons la conception de l'Église catholique romaine concernant la date de Noël. À vrai dire, la naissance de Christ ne pouvait pas avoir lieu le 25 décembre et s'accorder avec les Écritures, car il y a 30 pieds de neige en Judée à ce moment de l'année. Voyez, ici, ça n'a pas pu être des bergers sur la colline et ainsi de suite. Et cela serait contraire à toute la nature. Il est venu en conformité avec la nature. En effet, Dieu a une loi et ses lois ne peuvent être changées. Le soleil se couche. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, il ne se lèvera pas. Il se lève effectivement l'été, l'hiver et autres. Ce sont des lois de Dieu que Dieu a établies et chacune d'elles opère de manière parfaite. Bon, il se peut cependant qu'il soit né en avril ou en mai. C'est l'un ou l'autre. Alors, et lorsqu'il était un agneau et tous les autres choses ont prouvé qu'il serait un agneau, c'est la raison pour laquelle il est né dans une crèche, dans une étable, et non dans une maison, parce que les agneaux naissent à l'extérieur, dans les étables et dans la paille et tout, et non dans les maisons. Quand on l'a amené à la crucifixion, on l'a conduit, vous vous souvenez? On conduit les brebis. Si on va dans un abattoir, il y a une chèvre ou quelque chose du genre qui conduit les brebis. La brebis n'ira pas à elle-même, elle doit être conduite. Il était un agneau à tout point de vue, ainsi donc, selon la nature, il devait naître au moment où les agneaux naissent. Et c'est en avril, vous voyez, c'est à peu près à ce moment-là qu'il est né. Mais alors, quand le christianisme a été introduit dans le romanisme et que cela a été mélangé à Nicée, ils avaient en ce temps-là le dieu soleil, Jupiter, le dieu soleil de Rome, dont on célébrait l'anniversaire entre le 25-25. En effet, le cirque romain commençait le 21 et allait jusqu'au 25. C'était pour célébrer l'anniversaire du dieu soleil. Alors, pour mélanger le paganisme romain au christianisme, ils ont dit, faisons-en l'anniversaire du Fils de Dieu, alors nous pourrons tous nous mettre d'accord là-dessus. Vous voyez, cela a toujours été dans les systèmes de faire des compromis sur la vérité. Chaque fois, cela a toujours été. Nous voyons donc aujourd'hui qu'on y a tout injecté, tous nos jours de fête sont souillés, notre Pâque, ce n'est plus la résurrection de Christ, c'est une espèce de lapin de Pâque ou un nouveau chapeau ou quelque chose comme cela, ou un petit canard rose, cela n'a rien à faire avec la résurrection de Christ, pas plus que le Noël n'en avait avec la naissance de Jésus-Christ. Mais ça, c'est le monde, et le monde commercial a plongé le tout dans une telle confusion et un tel gâchis qu'il n'en est pas étonnant que Dieu ait de bonnes raisons de consumer la chose. Et il va le faire. Il a promis de le faire. Et il faut que cela se retrouve dans ce gâchis pour... Il n'y a plus d'espoir pour cela. C'est fini. Bon, mais en cette heure des ténèbres où nous vivons, comme je l'ai dit, les chrétiens devraient toujours brandir cette lumière, comme quoi il y a une vérité dans Noël, que c'est la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les éclats qui déchirent un ciel sombre, nuageux et en furie, montrent qu'il peut y avoir de la lumière dans les ténèbres. C'est la preuve qu'il peut y avoir de la lumière dans les ténèbres. Ce dont je parle ce soir pourrait sembler quelque peu inhabituel, et surtout pour ces notes et ces passages des Écritures que j'écris ici, auxquels je vais me référer, comme beaucoup de gens notent les Écritures et tout, eh bien, c'est un peu inhabituel, mais je veux que vous gardiez toujours ceci à l'esprit. Dieu est inhabituel. Dieu fait des choses inhabituelles. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes établis dans notre chose habituelle au point que lorsque quelque chose d'inhabituel se produit, nous sommes alors tout à fait en dehors de la chose. Nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Dieu fait des choses inhabituelles, et tout homme qui a déjà lu la Bible sait que Dieu fait toujours des choses inhabituelles. Et souvenez-vous, ceci est tout fixé à l'avance par Dieu lui-même. Cette naissance de son Fils, le moment où cela devait arriver, comment ça devait arriver, et quand cela devait arriver, tout cela a été fixé d'avance par Dieu lui-même. Avez-vous remarqué, cela devait arriver exactement à l'époque de ce roi meurtrier Hérode, qui n'était rien d'autre qu'un meurtrier. Il a tué tous ses petits-enfants afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces temps. Rama, Rachel moissonne, pleure ses enfants, et ils ne sont plus. Vous voyez, il devait y avoir un roi meurtrier pour accomplir cette prophétie qui a été prononcée plusieurs centaines d'années auparavant. Et quand Dieu prononce une parole par son prophète, elle doit s'accomplir si c'est la parole de Dieu. Mais si cela prend du temps, elle s'accomplira toujours parce que c'est une semence. Jésus a dit que la parole de Dieu est une semence qu'un semeur a semée. Elle doit donc porter son fruit en sa saison. Ainsi donc, ce roi meurtrier devait être là à ce moment-là pour tuer ses enfants. Voici une autre chose que nous désirions remarquer, c'est au moment même qu'il devait faire augmenter les impôts du peuple. Et à cause de cela, Joseph et sa femme furent contraints, sa fiancée Marie, ils furent contraints à rentrer à Bethléem. Dieu sait comment faire les choses. Il fera même que les œuvres de l'ennemi le glorifient. Parfois, nous pensons que ce qu'il nous faut, c'est faire ceci ou cela, afin que le tic-tac de l'horloge arrive à l'heure juste. C'est l'horloge de Dieu qui est à l'heure juste. Jésus sera là, Satan, et ne sera pas en retard d'une seule seconde. Tout s'accomplira très exactement tel que Dieu l'a dit. Ainsi que nous fassions cela ou pas, cela arrivera malgré tout, car Dieu l'a dit, il en sera ainsi. Eh bien, nous voyons que les impôts qu'Hérode avait dit que tous ceux qui demeuraient loin de leur lieu de naissance devaient obligatoirement y retourner. Cela, il pensait qu'il faisait quelque chose d'important, là. En faisant cela, sans savoir qu'il était en train de travailler en parfaite harmonie avec Jéhovah. Combien de sacrificateurs ont sans doute maudit Hérode à ce moment-là au nom de l'Éternel? Combien se sont opposés sans doute secrètement en disant, « Oh, ce Romain, si nous pouvions mettre la main sur lui, nous ferions telle et telle chose, sans savoir que cela marche exactement selon le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous maudirions parfois les communistes et toutes ces choses qui, j'imagine, le méritent. Mais si seulement vous connaissiez la vérité, il est parfaitement dans la main de Dieu pour accomplir exactement ce que Dieu a dit qu'il ferait. Il doit susciter quelque chose pour effacer Babylone de la surface de la terre. Il y a cet instrument dans ses mains. Lisez simplement les Écritures, c'est écrit là-même ce qu'il a dit qu'il ferait. Et si les prédicateurs de ce temps-là avaient lu et étudié cette parole, ils auraient su que cela devait arriver. Eh bien, nous voyons donc que lors de cette grande imposition, le roi avait donné son règlement ou son ordre selon lequel tout le monde devait retourner à son lieu de naissance, quelles que soient les circonstances. Eh bien, ça semblait bien être une chose horrible pour cette pauvre petite femme dans l'état où elle se trouvait, attendant un enfant, de devoir entreprendre ce long voyage. Aujourd'hui, c'est à peine si on peut penser à l'amener à bord d'une ambulance, mais si elle est obligée de le faire, si vous avez déjà hésité en Palestine, vous verriez qu'elle a dû traverser ces roches de granit roboteux, passer par là sur le dos d'une petite mule. Peu importe combien c'est désagréable, combien cela peut sembler cruel, c'était l'ordre du roi. Tout le monde devait l'exécuter cela. Genou vieux, vous voyez, vous soyez prêts ou pas, on devait le faire de toute façon. Et parfois, nous pensons que nos fardeaux, je pourrais glisser ceci juste ici. Parfois, nous pensons que nos fardeaux sont si lourds qu'il n'y a rien de pareil au monde. Savez-vous que toutes ces choses sont bonnes pour vous? Elles sont toutes destinées à vous modeler, à vous façonner. Les prophètes et les sages furent façonnés derrière le désert, sous un soleil ardent et accablant, au travers des tribulations, des épreuves et des persécutions. Et ces choses que nous avons aujourd'hui, rien ne nous est arrivé qui ne soit arrivé à d'autres chrétiens auparavant. D'autres chrétiens ont dû se tenir là en des heures de ténèbres comme celle-ci, hein, et même jeter à pâture au lion à cause de leur témoignage. Et alors, on s'en fait pour son petit prestige et pour le rang que l'on croit avoir. On dit, bien, je suis membre de telle église, vous avez, je crains de jeter l'opprobre si je... N'ayez pas peur de témoigner de Jésus-Christ, faites-lui votre lumière. Prenez position pour vos convictions, comme quoi il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas une nuit de visite du Père Noël, mais c'est la naissance de Jésus-Christ que nous célébrons, vous voyez? Eh bien, nous voyons donc ce que cela fait. Avez-vous déjà vu quand on est sur le point de mouler une cloche, une bonne cloche pour le carillon d'une église ou quelque chose comme cela, qui doit donner un certain digne? Vous voyez que vous faites sonner un carillon, chaque cloche doit avoir un son spécifique. Il faut qu'elle soit constituée d'un certain matériau, telle quantité de bronze, telle quantité d'acier, telle quantité d'autres minéraux. Pour fabriquer cette cloche, s'il n'y a pas que du bronze, cela ne donnera pas le son qu'il faut. Il faut que cela soit constitué de toutes sortes de matériaux pour qu'il puisse produire le genre de sons appropriés. Et l'homme qui place la moule et qui le déploie, c'est exactement ce qu'il faut pour constituer cette coupole. Et ce qui doit constituer ce métal, faire que cette cloche produise le son. Dieu est notre grand coupole. Dieu est le grand fourneau raffineur, puisqu'il lui faut mettre ces choses sur nous, des épreuves, des persécutions, et tout pour nous mouler cela ensemble, pour faire que notre témoignage sonne à un certain moment et produise une certaine note, qu'il faut que cela produise un certain jour. Nous sommes constitués différents. Nous sommes tous constitués différents. Nous voyons différemment. Mais nous voyons toute une seule chose, c'est Jésus-Christ. Regardons à lui. Et le seul moyen pour vous de le voir, s'il est différent de cette parole, c'est pas lui que vous regardez. Car ça, c'est lui. Si donc vous voyez un credo, ou plutôt vous voyez une dénomination de sorte que vous vous dites, je suis un membre et ça suffit. Si elle ne regarde pas cette parole, alors détournez-en les yeux, regardez cette parole, et c'est ce que nous attendons, Christ, la manifestation de la parole de Dieu. Il est la confirmation de la parole de Dieu. Bon, toutes ces glorieuses choses sont arrivées là, à ce petit couple. Ça semble étrange, et peut-être que cela leur semblait étrange, mais tout cela concourait pour leur bien. Eh bien, le songe de Joseph... J'aimerais en parler un instant. J'ai noté des passages des Écritures ici à ce sujet. Dans tous les temps, dans tous les âges, Dieu a parlé à son peuple et s'est révélé par des songes. Et les songes ne sont pas une assurance. Tout songe ne vient pas de Dieu. Bien des gens ont des songes, ils ont toutes sortes de songes. Et si vous allez vous coucher la nuit, si vous allez au lit, après avoir beaucoup mangé le soir, vous pourriez rêver de n'importe quoi. Vous pourriez faire de la fièvre et faire toutes sortes de cauchemars et tout. Ce n'est pas Dieu. Mais toutefois, Dieu traite avec les gens par des songes. Nous voyons tout au commencement que Joseph, le fils de Jacob, était un prophète. Et un prophète comprend les songes. Eh bien, quand un songe est interprété, il devient alors une vision. C'est une prophétie. Eh bien, on voit même qu'avant cela, le roi Nebuchadnezzar, en remontant jusqu'à Daniel et en remontant tout le parcours, Dieu traitait avec les gens par des songes spirituels, je crois à cela. Nous en avons aujourd'hui. Bien des fois, j'ai eu à témoigner. Des centaines de gens ont eu des songes que j'ai correctement interprétés. Cela s'est accompli à la lettre. Mais un songe, c'est un peu de la fiction. Eh bien, une fois, lors d'un examen médical, on m'a posé des questions sur les songes. Donc un songe, c'est quand, selon ce que nous a raconté, vous êtes dans votre subconscient. Or, l'homme a premièrement une conscience, et c'est dans cette première conscience que ces cinq sens sont actifs, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Mais quand vous adorez, ces cinq sont inactifs, et vous êtes donc ici dans le subconscient, qui est très éloigné de vous. Vous êtes donc là et vous faites des songes. Mais quand vous revenez à vous-même et que vous vous réveillez, nous tous, très probablement, chacun de nous ici a fait un songe une fois, à un moment donné dans sa vie, dont il se souvient encore, c'est qu'alors une partie de vous était quelque part, et que quand vous êtes revenu conscient, vous en aviez encore le souvenir, cela remonte peut-être à des années. Je me souviens des songes que j'ai eus quand j'étais un petit garçon, je m'en souviens encore. Il doit y avoir, donc y avoir quelque chose, une partie de moi qui était quelque part. Eh bien, ça, c'est les songes. Donc, vous voyez, vous êtes loin de vos sens. Puis quand cela revient, que vous racontez le songe, si cela vient de Dieu, il peut y avoir un interprète des songes. La Bible dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui est spirituel, au prophète, moi, l'Éternel, je me révélerai à lui dans les songes et je lui parlerai par des visions. Or, nous voyons que Joseph, le fils de Jacob, était ce genre de personne. Cela, les gens avaient des songes et lui, il en avait des, donné l'interprétation, il pouvait interpréter les songes. Il y avait des visions, c'est absolument une œuvre de l'esprit. Eh bien, nous voyons aussi en cela que quand un homme est né pour être un voyant ou avoir des visions, vous devez être appelé par Dieu pour cela. Remarquez, voici votre subconscient naturel et voici votre première conscience. Eh bien, vous devez sortir de vos sens, de vos cinq sens, vous endormir pour entrer dans le subconscient puis revenir à cela. C'est un songe. Mais pour un voyant, les deux consciences sont ensemble. Vous ne sortez pas de ces cinq sens. Vous êtes toujours dans les cinq sens. Vous vous tenez bien éveillé. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, vous ne sortez pas de vos sens. Vous êtes juste là, vous savez où vous êtes et ce que vous faites, prononçant vos paroles, eh bien, ça, c'est un don prédestiné. Les dons et les appels sont sans repentir. Vous voyez, c'est Dieu qui fait cela. Vous ne dormez pas, vous vous tenez là, les deux yeux ouverts, vous regardez tout droit et vous voyez ce que vous regardez. Vous voyez, et une vision, certainement, vient de Dieu, bien sûr. Aujourd'hui, nous dormons. C'est le problème qu'ont les gens aujourd'hui. Ils dorment. Beaucoup de gens aiment dormir. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de lits au ciel. Nous ne dormirons pas quand nous irons au ciel, car il n'y a pas de nuit là-bas. Il n'y a pas de nuit. Vous n'aurez donc pas à dormir quand vous arriverez au ciel, car il n'y a pas de lit là-bas. Mais remarquez, quand notre conscience, Dieu peut utiliser chaque partie de nous si cela lui est converti. Tout ce que nous sommes, quand c'est entièrement remis entre les mains de Dieu et converti à son service, il peut nous utiliser par des songes. Il peut nous utiliser pour notre parler. Il peut utiliser nos sens et tout ce que nous sommes, car c'est converti à Dieu. Alors Dieu peut l'utiliser. Croyez-vous cela? Vous voyez, quand nous sommes tous à lui convertis, il peut l'utiliser. Quand notre être est converti, alors les chrétiens peuvent aujourd'hui avoir des songes spirituels qui peuvent avoir un sens, qui peuvent leur annoncer des choses. Nous savons que c'est la vérité. Un songe spirituel qui est interprété, correctement interprété, c'est la même chose qu'une vision. Et qu'est-ce qu'une vision? Une vision, prédiction, est une prédiction des événements futurs. Elle prédit la chose avant qu'elle arrive. Et c'est ainsi que Dieu a toujours confirmé si c'est vrai ou pas. Ou plutôt un homme dans l'Ancien Testament était censé être prophète si ce qu'il disait arrivait. Alors on savait que si cet homme disait une chose et que cela arrivait toujours, eh bien cet homme ne recevait pas l'imposition des mains ou une poignée de main pour avoir un don. Il est né avec ce don. Déjà en lui, à la naissance, avant sa naissance, regardez le prophète Isaïe. Il a prophétisé au sujet de Jean 712 ans avant sa naissance et il a dit qu'il était la voix droite de celui qui crie dans le dessin. Regardez Jérémie, avant même qu'il fût conçu dans le sein de sa mère, quand il était encore là, Dieu a dit, je te connaissais, je t'avais sanctifié, établi prophète des nations. Vous voyez, les dons et les appels sont sans repartir. Et vous pouvez seulement être cela, peut seulement fonctionner lorsqu'il y a quelque chose là avec lequel travailler, comme si une main droite doit travailler et que vous avez une main droite. Laissez-la alors travailler pour le royaume de Dieu. Si vous avez des yeux pour voir, regardez alors ce qui est juste. Des lèvres, une voix pour parler, dites ce qui est juste, quoi que ce soit. Faites ce qui est juste et convertissez à Dieu tout ce que vous avez pour sa gloire. Eh bien, on voit que les événements futurs sont annoncés par la prophétie avant qu'ils ne se produisent. Aussi étrange que ça puisse paraître. Le Dieu Tout-Puissant a annoncé d'avance et a pris soin du bébé Jésus et a révélé par un songe ce qu'il fallait faire. Alors que Dieu, avec ce moyen secondaire, à son propre fils, l'a révélé à Joseph par un songe. La Bible a dit qu'il l'a fait. Oui, monsieur. Maintenant, Joseph était un homme juste. Il était le fils de David. Il était fiancé à Marie. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant que nous allions plus loin. Les fiançailles en Orient, c'était la même chose que le mariage, une promesse de mariage. Dès que les gens étaient fiancés, ils étaient mariés, lorsque ces vœux sacrés étaient faits entre eux. Lisez Deutéronome 22-23 et vous verrez que l'homme et la femme se mettaient d'accord pour se marier, même s'ils faisaient les vœux des mois plus tard, s'il leur arrivait de briser ces vœux, ils étaient coupables d'adultère. C'est vrai. Dès qu'ils étaient fiancés, c'était exactement comme s'ils étaient mariés. La loi ne leur autorisait pas encore de vivre ensemble, comme mari et femme, mais devant Dieu, dès qu'ils se promettaient l'un à l'autre, leurs paroles étaient scellées dans le royaume de Dieu. Et de briser cela, c'était la même chose que de commettre l'adultère. Et si Joseph était fiancé à Marie, si mes frères prédicateurs, si vous étudierez ça de près, ça vous éclairerait sur cette question du mariage et du divorce qui est si difficile. Et qui diffère parmi les gens d'aujourd'hui. Eh bien, remarquez, Joseph, son mari, qui était un homme juste, voyez, en nous voyant que cela ne pouvait pas être brisé. Elle a dû lui dire, cette jeune vierge, cette belle jeune femme juive, elle est devenue, nous sommes tous des adultes ici, à ce que je vois, elle est devenue enceinte. Et Joseph, qui la fréquentait, a sans doute remarqué cela. Après qu'il fut devenu son fiancé, il a découvert qu'elle était enceinte. Eh bien, il était un homme juste, la Bible le dit, et elle doit lui avoir parlé de son innocence. Cette aimable femme, je peux l'entendre dire, Joseph, mon cher ami, je suis innocente dans cette affaire. Elle doit lui avoir parlé de la visite du grand archange, que l'archange Gabriel était venu vers elle. Il l'avait visité avec ses glorieux signes dont il lui avait parlé de ce qui allait arriver. Et puis nous voyons aussi qu'après qu'elle ait eu cette visitation, elle était si enthousiasmée par le message de l'ange qu'elle est allée dans la contrée montagneuse de Judée depuis Nazareth, dont elle était originaire, ville de Nazareth, une petite ville très méchante. Quand elle est arrivée là-bas, sa cousine Élisabeth, elle aussi était enceinte depuis 6 mois. Elle, dont on disait qu'elle était stérile. Son mari, Zacharie, était sacrificateur au temple. Et un jour, alors qu'il agitait les offrandes, ou plutôt brûlait l'encens pour les prières que le peuple faisait monter à l'extérieur, Gabriel, l'ange du Seigneur. Maintenant, il n'avait pas été vu ni rien de surnaturel depuis des années et des années, des centaines d'années. Mais voilà que cet ange se tenait là à la droite de l'autel et lui a dit que sa femme concevrait et enfêterait un fils et qu'il lui donnerait le nom de Jean. Et nous connaissons tous l'histoire. Et ensuite, lorsque Gabriel, 6 mois plus tard, a également visité Marie à Nazareth, et qu'il lui a parlé de ce qui était arrivé à sa cousine Élisabeth, et alors, rapidement, Marie, ayant ce grand secret dans son cœur sur ce qui allait se produire, elle est allée à toute hâte dans les collines pour voir sa cousine. Et pendant ce temps, Élisabeth s'était cachée. En effet, elle ne voulait pas se montrer devant les hommes dans l'état où elles étaient. Elle s'était cachée pendant 6 mois. Et bien, d'après ce que je comprends des Écritures, elle était très inquiète jusqu'à ce que moment-là, l'enfant était sans vie. Et c'était très anormal qu'un bébé ne bouge pas, tout au moins jusqu'au 3e, 4e mois. Mais déjà, c'était le 6e mois et le bébé n'avait pas jamais bougé. Et alors, quand Élisabeth et Marie se sont donc rencontrées, sans doute qu'elles se sont étreintes et elles se sont embrassées, étant des cousines, et elles étaient très heureuses de se revoir. Imaginons un peu ce qu'elles se sont dit, et je peux entendre Élisabeth dire à Marie, « Oh, ma chérie, tu es si belle! » Et Marie dit, « Tu sais, je sais que tu es enceinte. » Oui, cela m'inquiète un peu, ça fait 6 mois et mon bébé n'a pas encore bougé. Oh, mais j'ai quelque chose à te dire, je ne peux pas garder cela plus longtemps. Vous savez, il se passe quelque chose quand vous entrez en contact avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous taire à ce sujet. Vous devez simplement dire quelque chose, cela c'est quand vous êtes une véritable et réelle conversion, peu importe où vous êtes, vous devez l'exprimer d'une manière ou d'une autre, et je peux l'entendre dire, tu sais quelque chose à te dire, moi aussi je vais avoir un enfant. Oh, dit Élisabeth, je pense que pourquoi tu ne m'as pas invité à ton mariage avec Joseph? Quand est-ce que vous vous êtes finalement marié? Je sais que vous étiez fiancé, mais pourquoi tu ne m'as pas invité à ton mariage? Oh, nous ne sommes pas encore mariés, et tu vas avoir un bébé! Oui! Eh bien, Marie, je ne comprends pas. Tu sais, Gabriel, l'ange du Seigneur, m'est apparu, et c'est lui qui m'a dit que tu allais avoir un enfant. C'est lui qui me l'a dit. Et il m'a dit que le Saint-Esprit allait me couvrir de son ombre, et que le Saint-Enfant qui naîtra de moi serait le Fils de Dieu, et que je lui donnerai le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Et la première fois que ce merveilleux nom fut prononcé par des lèvres humaines, le petit Jean qui était mort dans le sein de sa mère a tressailli de joie. Il a reçu le Saint-Esprit, lui qui était mort dans le sein de sa mère. Si la puissance qu'il y a dans le fait de prononcer le nom de Jésus-Christ peut ramener à la vie un bébé mort dans le sein de sa mère, qu'est-ce que cela devrait faire dans une église qui professe le servir et né de son esprit? Comme Élisabeth était très étonnée, en regardant Marie, elle a dit, « D'où vient que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Seigneur? Car aussitôt que ta salutation est parvenue à mes oreilles, mon bébé a tressailli de joie dans mon sein. » Jean fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, par le nom de Jésus-Christ. Quel genre d'enfant devait-il être? Sans doute qu'elle rapporta cela à Joseph. Maintenant, voyez, Joseph étant un homme juste, se disait probablement, vous voyez, bon, je sais que s'ils ont la trouve adultère, ce qui va lui arriver, elle va être lapidée. Elle ne peut pas vivre comme ça. La Bible dit que si une jeune fille, fiancée, se trouve dans une ville, et qu'elle soit violée par un homme, si elle ne crie pas, alors les deux doivent être lapidés ensemble. On les tue. Mais si elle est dans la campagne, dans les champs, et qu'elle crie et que personne ne l'entend, c'est l'homme qui doit être tué. Elle peut vivre. Aussi, la pénalité pour cela, c'est Deutéronome 22, là où je vous ai demandé de lire il y a quelques instants. Maintenant, remarquez donc à ce sujet, nous voyons qu'elles allaient devenir mères sans être mariées. Ainsi, pour Joseph, c'est comme si Marie cherchait à se servir de lui comme bouclier contre les moqueurs et les railleurs. Vous voyez, Joseph devait lui servir de bouclier en allant de l'avant et en l'épousant malgré tout pour lui servir de bouclier, mais sans être son mari par des liens conjugaux. Mais ça devait être, il devait lui servir de bouclier. Il voulait bien le croire, je crois vraiment cela. Il voulait la croire, mais son histoire était si invraisemblable. C'était difficile à ce croyant de le croire. Excusez-moi, mes amis, c'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire de la puissance du Saint-Esprit sur la terre, dans l'Église est si inhabituel pour les organisations et pour la pensée dénominationnelle que les gens veulent bien croire cela, mais c'est trop inhabituel, c'est trop fantastique, mais c'est la vérité. La Bible a dit qu'il en serait ainsi, et ça l'est. Bien des hommes qui sont attachés à des credos veulent vraiment croire cela. Mais c'est si inhabituel qu'ils ne peuvent simplement pas le faire. Ils ne savent que faire. Il est simplement dans une situation difficile comme Joseph. La Bible dit pendant qu'il méditait sur ces choses. Voyez, c'était un homme juste. Il ne voulait pas que son propre nom soit sali. Et pourtant, il savait que si cette jeune fille était dans cet état-là, il ne pouvait pas l'épouser. Elle était enceinte d'un autre homme. Et pourtant, dit-il, cette jeune fille innocente, sa vie a été tout aussi pure qu'un lys, et je veux bien le croire, mais je ne sais que faire. Pendant qu'il méditait sur ces choses, il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Il a dit, je ne voudrais pas faire beaucoup de bruit là-dessus. Eh bien, souvenez-vous, il n'avait pas encore fait les vœux, mais il était fiancé et il voulait rompre secrètement avec elle. Et pendant qu'il méditait sur ce sujet de rompre en secret, vous voyez, c'était au milieu de sa connaissance. Voyez-vous, c'était un homme juste et un homme de bien. Frères et sœurs, permettez-moi de dire ceci. Si vous êtes juste, si vous êtes honnête dans votre cœur, alors Dieu est obligé de vous le révéler. Joseph, son mari, étant un homme de bien, réfléchissait à ces choses. C'était si inhabituel, comme je l'ai dit, qu'il arrivait à peine à comprendre cela. Comment est-ce possible? Mais sans doute qu'il s'est assis et a prié là-dessus. Il a examiné cela dans les Écritures. Comment est-ce possible? Pendant qu'il étudiait, l'ange du Seigneur lui est apparu dans un songe. Il n'était pas un prophète. Il n'y avait pas de prophète sur la terre en ce temps-là. Personne ne pouvait venir vers lui avec l'ainsi dit le Seigneur. Ainsi, le Seigneur a pris un moyen secondaire. C'est pourquoi Dieu a confié son propre fils aux soins d'un autre homme. Par un songe, il l'a envoyé en Égypte, puis il l'a ramené, il l'a caché aux mages, et plutôt les mages ont emprunté un autre chemin. Il n'y avait pas de prophète dans le pays. Alors, il a pris un moyen secondaire, le songe. Mais il y avait des hommes qui n'étaient pas nés pour être des voyants, mais c'étaient des hommes bien. Et lorsqu'ils en avaient, Dieu les visitait dans leur subconscient et ils se révélaient à eux. Si seulement vous vous abandonniez à Dieu, Dieu a beaucoup de voies par lesquelles il peut se révéler à vous. Vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas un prophète, peut-être que vous n'êtes pas un docteur, peut-être que vous n'êtes pas un enseignant de l'école du dimanche, peut-être que vous n'êtes pas un prédicateur, mais il y a des voies par lesquelles Dieu peut se révéler à vous. Voyez, ça peut être par des sons, ça peut paraître d'autres voies. Si seulement vous vous abandonniez comme Joseph. Sans doute qu'ils avaient dit, « Oh, grand Jéhovah, Dieu, je suis issu de la lignée de David et je suis un homme juste. Je crois que je le suis. Je crois que tu as dit la vérité, ma chère petite chérie ici. Je suis fiancé à elle. Pour rompre avec elle, autrement, je serais coupable d'adultère. Elle est enceinte. Je ne connais pas je ne la connais pas comme femme. Que sont ces choses, Seigneur? Voyez, s'il n'était pas prophète, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas lui parler de cette façon. Il l'a donc laissé s'endormir. Il lui a envoyé l'ange du Seigneur dans un songe. Amen. L'ange du Seigneur est venu vers lui dans un songe. Et il l'a touché et lui a dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie pour ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » C'est ça. L'enfant qui est en elle n'est pas d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui a fait ceci. Cette femme a dit la vérité. Cette histoire inhabituelle, cette chose inhabituelle qui est arrivée, Joseph, et qui t'a complètement déchiré, vient du Saint-Esprit. Oh, ce même Dieu est encore vivant ce soir. Vous avez toujours le subconscient. Et vous avez, vous les chrétiens, si une chose vous paraît inhabituelle et que vous le voyez qu'elle est parfaitement en ligne avec la parole, alors Dieu peut révéler des choses inhabituelles de plusieurs façons. Il a donc dit à Joseph, « Toi, fils de David, ne crains point de prendre avec toi ta Marie, ta femme. » Souvenez-vous-en, elle était déjà sa femme. « Prends avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Or, Quand Dieu t'a envoyé son ange et a révélé cela, et que sa révélation du songe est venue à Joseph, et il savait qu'il n'y avait aucun mystère là-dessus. L'ange était venu vers lui dans un songe. Il avait vu l'ange en songe. Or, un prophète ou un voyant ne dort pas. Il voit l'ange se tenir là. Quelqu'un d'autre dort simplement, il voit l'ange. Puis l'ange a dit, « Eh bien, Joseph, il n'y avait pas d'énigme. Il n'y en a personne là-bas qui puisse te l'interpréter. Je vais donc te dire ce qu'il y en est. Je vais rendre cela réel pour toi, car il n'y a personne qui peut rendre cela réel. On ne craint pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu est du Saint-Esprit. Alors quand Joseph s'est réveillé de son sommeil, oh, comme son cœur a dû être rempli d'une nouvelle foi. Ce mystère qui l'avait intrigué, c'est quelque chose qu'il désirait bien croire et qu'il s'est efforcé de croire, mais qui est si inhabituel, cela lui a été révélé dans un songe. Une nouvelle foi venait de naître dans sa vie. Oh là là, il avait foi en Dieu, il avait foi en sa femme alors. Et la foi en Dieu et l'amour pour sa femme, l'amour pour celle qu'il aimait, il n'y avait plus de questions à ce sujet. Il était sûr que c'était l'ange du Seigneur. Il était sûr que Dieu lui avait révélé avec exactitude la question qui préoccupait son esprit. Ainsi, toutes les questions étaient dissipées. Et quand Dieu, de quelque manière qu'il désire le faire, vous révèle la question qui vous préoccupe, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de questions à ce sujet. C'est une révélation. Quand vous voyez quelque chose ici dans les Écritures, vous dites, je crois que c'était seulement pour les apôtres. Je crois que Jésus a fait cela dans les jours passés. Mais la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, exactement le même Jésus. Si donc cela vous semble être un problème et que vous méditez là-dessus et que vous ne pouvez pas le comprendre, vous voyez la chose arriver et que vous vous posez des questions là-dessus, alors l'ange du Seigneur, si vous êtes sincère, vous la révèle d'une façon ou d'une autre. Et alors, il n'y a plus de questions, c'est alors la vérité. Et oh, vous pouvez alors crier, pousser des cris. Oh, je suis ici reconnaissant. Je peux m'imaginer que ce que Joseph a ressenti quand cela t'est arrivé entièrement, le mystère était alors entièrement terminé. Or, quand cela s'est produit, on l'a retrouvé se réjouir, car il était heureux. Eh bien, nous voyons qu'il y a aussi, il a aussi épousé. Or, il n'y avait plus de questions. Là, il a pris Marie, sa femme, et il ne l'a pas connue comme femme jusqu'à la naissance de l'enfant. Il en était heureux. Il était content d'être le bouclier de Marie. Il était content de porter son opprobre. Quand un homme peut recevoir la révélation de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, quel que soit le nombre de credos qui cherchent à refuter cela, vous êtes heureux de servir de bouclier. Vous êtes heureux de servir de bouclier. Que les gens disent ce qu'ils veulent, vous avez là un grand bouclier pour arrêter les très enflammés. J'espère que je ne parle pas trop fort à cause de ceux qui sont là dehors, qu'ils entendent cela eux aussi. Ils doivent l'entendre. Remarquez, oui, monsieur, vous êtes heureux de servir de bouclier. Que vous soyez un paillasson ou quoi que vous soyez, que vous voulez être, ça ne change rien. Cela vous a été révélé par le Seigneur. Le Seigneur vous l'a montré par la parole. Et c'est la vérité. Et puis, il vous l'a confirmé pour le faire revivre. Vous dites, ça y est, oh là là, rien ne va. Personne n'a même le droit de prêcher l'Évangile avant d'avoir rencontré Dieu face à face. C'est vrai, aucun homme ne devrait se retrouver à la chair sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Jésus a ordonné ses disciples de ne plus prêcher. Mais attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Observez ce que le Saint-Esprit a fait quand il est venu. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 2, verset 20, dit que Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit vient, il révèle la parole et qu'il la vivifie parfaitement, alors cela est une révélation pour vous. Vous voyez cela, c'est révélé, c'est sa promesse pour cette heure. Joseph a compris cela et c'était l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Isaïe 9 dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel, et son royaume n'aura point de fin. » Il savait qui ce serait, car Il a vu la chose entière quand l'ange du Seigneur lui a dit ceci. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Une vierge concevra et enfantera un fils. Or, c'était un grand mystère. Le super signe de Dieu donnait au monde entier un super signe qui montrait que c'était son fils. Maintenant, remarquez, alors que nous avançons, je ne prendrai pas trop de temps, je m'efforcerai de ne pas le faire. Remarquez, nous voyons par la suite quand Jésus, eh bien, je pense que si les petits-enfants qui sont ici ne comprendront pas, mais je dois dire quelque chose ici que les adultes, quand Jésus-Christ se formait en Marie, c'est à ce moment que la persécution a pris place. C'est vrai, c'est vrai. C'est à ce moment que sa persécution a commencé. Il en est de même pour vous. Galates 1, ou plutôt Galates 4, 19, dit que quand Christ, l'espérance de la gloire est formée en vous, Christ se forme en vous. Alors, vous êtes en train de mourir et Christ vient à la vie. Voyez la persécution commencer. Voyez les ennuis commencer de tous côtés. Voyez le diable se déchaîner. Certainement, quand Christ se forme en vous et quand Christ se formait en Marie, rapidement, l'ordre du roi fut ordonné. À vous tous, jusqu'à elle était, Christ devenait un bébé à terme, prêt à naître. C'est juste à ce moment-là qu'une grande persécution a commencé. Eh bien, ça fait longtemps que le bébé se forme dans le sein. Mais voici les derniers jours où la complétion, où la plénitude de la divinité, où la plénitude de Christ doit être manifestée parmi son peuple. Il l'a dit, il l'a promis dans sa parole. Et quand cette plénitude, vous voyez, il y a des choses inhabituelles qu'il a promises, qui commencent à arriver. C'est pourquoi la haute classe et les autres ne peuvent pas comprendre cela pour eux. C'est de la folie. Eh bien, vous observez, ils sont en train de former un conseil des églises. Vous voyez, juste au moment où l'église commence à se mettre sur pied, où le surnaturel commence à opérer, là où ils se sont tous réunis, et maintenant ils vont chercher à arrêter cela, ces choses. Exactement comme ça s'est passé alors. Comme je l'ai dit samedi passé à Phoenix, les Philistins avaient établi leur guérison à Bethléem, de sorte que les gens ne pouvaient pas venir sans passer par ce conseil des églises. Oh, ils vont les amener à une citerne où il y a une eau stagnante. Non pas des eaux fraîches de Bethléem, bien sûr que non. Oh, nous voyons. Alors, quand le roi a publié son ordre, juste au moment où Christ se formait, eh bien, regardons juste un instant, observons-les. Continuons un peu avant de terminer. Je peux entendre Joseph dire, « Marie, ma chérie, ce cruel de roi. » Mais elle a dit, « Écoute, mon chéri, souviens-toi, le Saint-Esprit m'a dit que son nom sera appelé Jésus et qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple de ses péchés. Eh bien, Joseph, mon chéri, peu importe ce qui arrive, ce que le roi a dit, je peux le faire. Je peux m'asseoir sur la petite mule. Ça fait plusieurs kilomètres à traverser ces montagnes rocailleuses et tout. Et s'il nous arrive d'avoir besoin d'un peu d'aide, il y aura beaucoup de gens en déplacement quand nous ne sommes pas la seule famille. Il y en aura d'autres qui endurent la même souffrance que nous. Alors, il y en aura d'autres sur le chemin. Et nous pouvons donc aller de pair avec les autres pendant qu'ils monteront à la colline pour se rendre à Bethléem. En effet, en partant de Nazareth, en traversant les montagnes, eh bien, nous voyons à ce jour-là, il a dû prendre la petite âne. Il lui a dû donner un peu plus de foin avec un peu d'avoine parce que la petite dame était assez lourde. Il l'a donc installée sur la petite mule. Il a placé également une outre d'eau et des petits pains. Il a saisi la corde du petit âne. Il a pris aussi son bâton. Ils se sont mis en route. La petite mule trébuchait et tombait. Et voilà ce petit âne transporté. Voyez son fardeau, ce qu'il est. Il porte Christ vers son lieu de naissance. Et voici une petite dame assise dessus, éprouvant les douleurs de l'enfantement, se cramponnant à la crinière de la petite mule, et elle parle à Joseph pendant qu'ils avancent. Je les vois durant toute la journée, ils s'arrêtent et là se reposent, disant, « Ma chérie, es-tu trop fatiguée? » »« Non, chérie, je me sens forte. » »« Eh bien, voudrais-tu chevaucher un moment? » »« Non, ma chérie, et reste assis là, et il la faisait descendre du petit âne. Se reposait un peu, il donnait de l'eau et boire un petit sandwich, et il la réinstallait sur la mule. Finalement, il a commencé à la faire sombre, les voyageurs le long de la route, ils étaient beaucoup plus rapides. ridicule, il est dépassé, il est devenu respirer la poussière soulevée par les autres qui étaient sur des chevaux, dans des chariots et ainsi de suite, ceux qui la dépassaient, c'est, car elle devait se déplacer très lentement à cause de sa condition. Quelle chose cruelle que d'envoyer cette mère là-bas dans ces conditions, mais je peux juste m'imaginer la petite scène comme ils arrivaient au sommet de la colline. Bethléem est située dans une, disons, une espèce de vallée qui devait, le versant ouest de la montagne de Bethléem, la montagne où le petit sentier, et je vois maintenant dans un drame où j'ai dit, il y avait une sombre, et Joseph va à tâtons avec son bâton pendant qu'ils empruntent chaque raccourci possible, là où le sentier fait un détour comme ceci, et là on doit passer le chariot, et bien certainement qu'ils prenaient les raccourcis pour chercher à gagner du temps et s'éloigner de la poussière avec cette petite femme. Les étoiles commencent à apparaître. Au bout d'un moment, ils arrivent au sommet de la colline et une fois de plus, ils sont regardés vers la ville où deux étaient nés à Bethléem, les lumières de la ville. Il y avait beaucoup de gens là. Les maisons étaient bondées. Il y avait là des gens de l'extérieur. Ils dormaient par terre dans les champs. Et alors, une question vient à l'esprit de Joseph, peut-être pour la première. Qu'est-ce que je vais faire si je ne trouve pas un endroit qu'il est possible que cet enfant naisse cette nuit? Elle a éprouvé des douleurs toute la journée maintenant. Oh, si le bébé devait naître cette nuit. Pendant qu'il se tenait là, regardait la vallée, il se posait des questions. Il lui est arrivé de regarder de côté, il s'aperçut quelque chose d'étrange, vous savez. C'est généralement en temps de difficulté que le surnaturel se produit. Il regarda là et il vint une étoile. Il ne souvenait pas en avoir déjà vu une si grande. Il semblait si bas, suspendu juste au-dessus de Bethléem. Il baissa les yeux, puis il se retourna après avoir aidé Marie à monter sur un rocher pour se reposer un petit peu. Il s'est retourné vers elle et lui a dit, « Chérie, as-tu déjà remarqué? » Et il pouvait même avoir son reflet dans ses beaux yeux foncés, tandis qu'elle était assise à regarder souvent. Il a dit, « Chérie, n'est-ce pas étrange? » Elle a dit, « Joseph, mon chéri, c'est depuis le coucher du soleil que je la regarde. J'ai surveillé cette étoile pour une raison ou pour une autre. J'éprouve un sentiment étrange ce soir. Quelque chose est sur le point d'arriver. » Eh bien, généralement, c'est comme ça, vous savez, ce sentiment étrange. Et elle s'est mise à observer cette étoile, Joseph aussi. Les petites mules se reposaient allaitant. Ils observaient l'étoile. Elles avaient un mouvement particulier. Elles n'agissaient pas comme les autres étoiles. Il semblait qu'elles n'étaient pas au repos. Elles se déplaçaient. Elles attendaient quelque chose. Elles attendaient que quelque chose se produise. Eh bien, laissons-le notre petit couple assis là sur ce rocher pour un instant. Transportons notre pensée à des centaines de milles là en Orient. Là, loin en Orient, il y a là les mages en Inde, cette nuit-là, comme c'était leur coutume à eux, c'était quand une étoile, quand un soleil se couchait et que les étoiles s'apparaissaient, ils montaient sur la montagne, ils entraient dans une tour, dans une sorte d'observation, de tour d'observation, ils montaient là-haut pour observer et étudier, et ils déterminaient le temps à partir des étoiles, ils étudiaient les événements, et ils montraient là-haut et étudiaient la chute des puissances, des nations, l'effondrement des nations, et ainsi de suite, et des royaumes. Et ils méditaient là-dessus, ils en parlaient, ils connaissaient ces étoiles, chacune d'elles. Ils les connaissaient comme nous connaissons la Bible, chaque mouvement qu'elle effectuait signifiait quelque chose. Et vous savez, Dieu déclare toujours ses œuvres dans les cieux avant de s'accomplir sur la terre d'une façon ou d'une autre. Les ministres le savent. Ils étaient là à observer les étoiles, en effet. Ils savaient qu'à chaque changement, ils devaient immédiatement sonder les Écritures pour savoir ce qu'était. C'était. Vous dites les Écritures? Oui, les Écritures, c'était des mages. Mais ils étaient des Mohammedans. Ceux qui sont finalement devenus des Mohammedans, en fait, ils sont issus des anciens Médo-Perses. C'est de là que sont venus les Mohammedans, nous le savons tous. Et écoutez, là-bas, ils avaient eu un maître. Et si vous voulez lire cela, c'est Daniel 2:43. Le prophète Daniel était leur maître quand ils étaient là à Babylone. C'est exact. Daniel était leur maître prophète. Il leur enseignait toutes les choses de Dieu. Il était leur maître. Il leur avait dit qu'un jour, une pierre se détacherait de la montagne. Vous vous rappelez qu'il leur avait dit cela sans le secours d'aucune main et qu'elle se détacherait. Les royaumes des nations du monde, vous voyez, tous les royaumes, et que cette pierre allait, elle-même deviendrait une grande montagne et couvrirait la terre. Et alors, ces gens n'étaient pas des incroyants, ces mages. Non, monsieur, c'était des croyants. Ils croyaient en un seul vrai Dieu. Nous savons que c'est la vérité. La Bible le dit. Et si vous désirez le lire, lisez dans Actes 10, 35, où il est dit que Dieu ne fait point exception de nations, mais il honore ceux qui le craignent et qui pratiquent la justice. Or, bien qu'ils n'étaient pas totalement dans la vérité, ils croyaient croyait cependant le même Dieu que nous. Les Mohammedans croient le même Dieu que nous. Bien que des fois, je me suis tenu là et j'ai vu le prêtre musulman prendre une grande chose et le faire entendre un grand bruit en cognant cela et en disant « Il n'y a qu'un seul véritable Dieu vivant et Mohammed est son prophète. » Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu vivant et Jésus est son fils. Vous voyez, il dit « Loin de Dieu, l'idée d'avoir un fils, il pense que ça devait être un esprit, vous voyez. C'est pourquoi il a dit « Il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant et Mohammed est son prophète. » Il croit toujours à ce seul véritable Dieu, ce sont les enfants d'Ismaël. Bon, nous voyons que comme ils étaient comme ces Mohammedans, étudiaient ces choses et pourtant, les Mohammedans, on les appelait des mages. Ils observaient ces étoiles, ils allumaient un feu le soir, c'était un feu sacré. Ils servaient leur Dieu autour de ce feu sacré pendant qu'il brûlait la nuit. Et ils observaient et adoraient. Chaque soir, ils montaient là-haut et aussitôt que le soleil se couchait, ils étudiaient ces choses exactement comme nous. Nous rappelons dans des conférences et nous étudions la Bible, parole sur parole, et ils connaissaient chaque mouvement de ces étoiles. Or, une nuit, pendant qu'ils étaient là-haut à étudier, ce n'est pas étonnant qu'il fût très alarmant. Quand un visiteur leur apparaisse, une étrangère, ils n'avaient jamais vu cette étoile auparavant. Ils n'en savaient rien, ils n'en connaissaient rien. Ce n'est pas étonnant qu'ils... Ils ont été alarmés. J'imagine que pendant toute la nuit, ils l'ont observé. Ils ne savaient pas ce que c'était. Que faire à ce sujet? Oh là là, c'était une inconnue. Dans cette grande constellation-là, ils ont vu une étoile qui était suspendue juste là. Elle était inconnue, un phénomène. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Aussi, ils se mirent rapidement à sonder les Écritures pour voir ce qu'il en était. Et ceux qui ne pouvaient rien trouver dans leurs propres écrits. Mais ils sont retournés dans Daniel et voici qu'ils ont trouvé une pierre viendra. L'étoile de Jacob se lèvera. Ils ont su que quelque chose était en train de se passer. Ils ont vu. Ils ont dû tous prier. Ils sont allés au lit en discutant ensemble là-dessus. Ils ont dû voir en songe cette nuit-là que le roi des rois était né sur la terre. En effet, une récente coupure du journal parlant de ces mages nous informe que quand ces trois étoiles s'étaient alignées et avaient formé une seule étoile, le Messie était alors sur la terre. Et en fait, c'était des Juifs qui étaient là-bas en train d'étudier, qui recevaient leur formation en astronomie. Ainsi donc, quand ils ont vu cela, ils ont su que Jésus était né quelque part. Ils ne savaient pas où c'était, mais ils doivent avoir tiré au sort pour savoir quoi faire exactement comme ils devaient partir. Et tout le monde voulait partir, tout le monde. Mais comme je l'ai dit, il y a quelques instants, trois personnes servent de témoins pour être témoins et revenir dire aux autres, et c'est la vérité. Qu'ont-ils donc fait? Ils ont chargé leurs biens, ils ont chargé leurs présents et tout, et qu'ils devaient lui apporter. Je me demande bien ce soir, frères et sœurs, si nous, parfois, nous ne cherchons pas à savoir combien nous pouvons obtenir pour nous-mêmes alors que nous devrions donner ce que nous avons à Christ. Voyez, non pas apprendre combien nous pouvons devenir intelligents et comment nous pouvons surpasser l'autre en intelligence, mais comment nous pouvons lui abandonner tout ce que nous avons. Si Dieu me donnait un songe, je n'y croirais même pas. C'est ce que j'ai entendu certaines personnes dire. Je ne crois pas dans la guérison divine. L'autre jour, j'en parlais à un homme. Il a dit, peu importe le nombre de médecins qui aurait signé, peu importe ce que vous dites et ce que vous aurez, ce que là pourrait être, qui que ce soit. Et a-t-il dit, je n'y crois pas, je n'y croirai pas. J'ai dit, certainement pas, ce n'était pas pour vous. La guérison divine n'a pas été envoyée aux incroyants, elle a été envoyée aux croyants. Christ a été envoyé aux croyants, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé à ceux qui croient, seulement pas aux incroyants. Cela ne leur a pas été destiné. Pour eux, c'est une pierre d'achoppement et qui les aveugle. Et cela a toujours le cas et cela l'a toujours été. Ce n'est pas pour les incroyants, c'est pour ceux qui croient, c'est ça. Ici, nous voyons que les hommes étaient des croyants. Ils voulaient découvrir. Ils ont chargé tout ce qu'ils avaient pour partir. Ils voulaient découvrir si c'était vrai. Ils avaient un long voyage. Ils ont mis leurs richesses ensemble et tout le reste. Ils se sont préparés avec l'or, l'encens et la myrrhe et tout ce qu'ils devaient emporter pour voir ce roi. Ils ont commencé leur voyage et, avec leur présent et remarqué pour voir ce roi. Ils se sont mis à servir d'un signe céleste donné par Dieu par la théologie d'un homme. Ils n'avaient pas de la théologie d'un homme. Ils avaient vu cela dans la parole. C'était censé être là et ils ont su suivi le signe céleste. Les hommes disent le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Il y a un baptême du Saint-Esprit. On est exactement comme au jour de la Pentecôte. Il vient de la même manière aujourd'hui avec la guérison divine. La guérison divine, la puissance de Dieu, personne ne peut. Pour démontrer qu'avec la Bible, que cela a été ôté, moi, je vous peux vous montrer là où le Dieu l'a donné à l'Église. Vous montrez, moi, une écriture qui dit qu'il l'a ôté, cela ne s'y trouve pas. Car il est le même hier aujourd'hui éternellement, car la promesse, et Pierre a dit, au jour de la Pentecôte, répartez-vous et chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus par le pardon des péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu vous les appellera et aussi grand nombre qu'ils sont appelés. Ce soir, ce même Saint-Esprit reste pour les cœurs sincères exactement de la même le même qu'il l'était alors. Si ce n'est pas le cas, est-ce trop grand, trop étrange pour vous de croire en Dieu? C'est comme Paul l'a dit à Agrippa. Oh, Agrippa, vas-tu nier ce que les prophètes ont dit? Allez-vous nier ce que Jésus lui-même a dit? Ce que la Bible déclare clairement? Or, c'est Christ, la parole ouinte. Et si la parole demeure en vous, alors vous êtes une personne ouinte de la parole. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, alors demandez ce que vous voulez et cela vous sera regardé. C'est Christ en vous, ayant la parole pour cet âge-ci, peu importe à quel âge dans lequel les gens vivaient. Dieu a réparti sa parole dans les âges et chaque fois que ça arrive, les églises sont toutes embrouillées. Et Dieu voit une personne, il envoie et fait que cette parole agisse exactement comme il l'avait annoncé. Exactement, il y avait une parole prophétisée pour ce jour. Dieu attend de trouver quelqu'un pour qui cela ne sera pas trop inhabituel. Quelqu'un qui peut être loin du Saint-Esprit pour prouver que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement, pour être une lumière brillante pour aveugler les yeux des incroyants. Et ceux-ci blasphémeront contre cela et attireront le jugement, car la loi de Dieu est juste et le jugement ne peut venir par sa justice. Et alors, s'ils peuvent condamner le monde, ils l'envoyer dans une flamme de feu, comme il l'a fait pour les sodomites. Eh bien, remarquez, nous voyons donc que pendant le voyage, ils ont suivi le signe donné par Dieu, ils observaient, ils n'ont point considérer la parole de qui que ce soit. Ils ne se sont pas allés consulter un évêque ou quelqu'un d'autre. Dieu leur avait donné un signe. Ils ont vu ici que c'était la vérité. Ils l'ont suivi. Ils indiquaient le chemin. C'était celui que les Écritures avaient prédit. Ils savaient que cela viendrait. Ils l'ont suivi. Et qu'est-ce? Je peux les voir partir, dire au revoir d'un signe de la main. Nous reviendrons le jour ou l'autre, frère, pour vous apporter le message, car nous savons que cela est vrai. Suivi cela, traversant les montagnes, le fleuve, Tigre, les plaines, jour après jour, mois après mois, et tout ce qu'ils pouvaient, ils surveillaient cette étoile, probablement que pendant la journée, ils se couchaient pour dormir, ils se tournaient, se parlaient en disant, oh, ça va être certainement très merveilleux. Quand nous arriverons là, ce grand rayon de lumière céleste, cette lumière que nous voyons, le surnaturel, amen, vous pouvez. Vous pensez que je suis hors de moi? Ce n'est pas le cas. Remarquez, ce rayon céleste, c'était la lumière que nous observons maintenant. Rappelez-vous, personne d'autre ne l'a vu, cela. C'est passé au-dessus de tous les observatoires, mage après mage. Mais ça ne leur était pas destiné. Je crois qu'ils ont vu cela. Car la Bible a dit qu'ils l'ont vu. Personne d'autre ne l'a vu. Personne n'avait vu la lumière que Paul avait vue. C'était la même chose. Elle a terrassé Paul sur la route de Damas. Mais elle était destinée à Paul. Personne n'a vu le Saint-Esprit venir du ciel comme une lumière, une colombe, en dehors de Jean. Jean a vu cela. Il a rendu témoignage. Il a vu cela. Pas les autres. Lui, il l'a vu car il l'attendait cela. Les mages attendaient cela. Et quand vous attendez cela, quand vous êtes prêts à recevoir le véritable cadeau de Noël, le véritable don de Noël, le don de Dieu, Christ, le Saint-Esprit, vous attendez cela, vous le verrez. C'est une lumière céleste envoyée du ciel par Dieu pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Eh bien, ils n'ont pas pris la parole de chacun d'autre. La journée, cette lumière se déplaçait et ils disaient, « Oh, je ne peux tout simplement pas attendre. Je ne sais pas à quelle distance il nous reste à parcourir. Nous irons probablement à Jérusalem ou dans les Terres Saintes, en Palestine, car c'est le lieu de la prophétie indiquée comme le lieu de naissance de Jésus. Nous le découvrirons tôt ou tard. La nuit tombait et commençait alors à faire sombre. » Souvenez-vous, la lumière ne brille que dans les ténèbres. Ce n'est qu'un ainsi qu'elle est reconnue. Si jamais on eut un temps sombre où les hommes et les credos ont éloigné les gens de la parole de Dieu, c'est bien aujourd'hui où ces dénominations ont lié les gens avec toutes sortes d'histoires ou autres que la parole de Dieu, à tel point qu'ils en sont été assez aveuglés pour entrer dans le conseil des églises. Des choses comme ça qui s'associent avec toutes sortes d'incroyants, alors que la Bible dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être en avoir convenu? » Et nos églises entrent dans un tel rassemblement, certainement qu'ils sont sont aveugles. Mais c'était heure sombre de que la lumière apparaisse. C'est à ce moment-là que la lumière brille. Ils observaient cela et quand la nuit tombait, ils se réjouissaient et disaient, continue simplement à nous guider vers l'ouest. Continue à avancer, guide-nous vers cette lumière parfaite. Ils ont trouvé des fleuves et des barres barrées par des rivières et tout. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, brûlant et découvraient la vérité elle-même. Et regardez, Bethléem était parfaitement sur la même ligne que la Judée. Et partant de là, où Jérusalem était sur la même ligne que la Bethléem, à l'endroit où il se trouvait, remarquez, oh, quel symbole! Si vous pouvez saisir cela, voici Bethléem et Jérusalem, ici au-dessus. Et à partir du lieu d'où venaient les mages, ils devaient d'abord passer par Jérusalem. Avant d'arriver à Bethléem, saisissez-vous cela. Jérusalem, ce prétendu important et grand quartier général de dénomination, certainement Jérusalem et toutes les dénominations se réunissaient. Le grand conseil se réunissait là-bas. Vous savez, quand ces hommes, ils sont venus, ils sont arrivés dans cette ville, ils ont passé, c'est ici. S'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose à ce sujet, qui peut nous donner des explications sur cette grande lumière mystérieuse, il y a ici tous ces souverains sacrificateurs, il y a des docteurs en théologie, il y a des docteurs en divinité, des docteurs en droit et toutes les autres là, ils savent tout à ce sujet. Oh, frère, Jérusalem est en vue. Allons-y, nous obtiendrons cela. Ils se sont directement lancés dans la rue. Où allez-vous? Nous avons un grand message. C'est quoi? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qu'en est-il de ces mystérieuses lumières qui est là-haut? Où est-il? Ces hommes riches pourraient parcourir les rues sur leur chameau, bien revêtus, portant de l'or et de l'encens. Ils parcouraient chaque rue, chaque allée. Criaient, où est-il? Mais ils se sont aperçus qu'ils ne recevaient pas de réponse. Aujourd'hui, le grand cri, c'est le communiste est sur nous. Oh, chaque émission de radio, on cogne constamment contre le communiste. Vous savez discerner le communisme, mais vous ne pouvez pas discerner le signe du temps. Jésus a dit, vous avez discerné l'esprit du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner le signe du temps. On parle sans cesse de du communisme. Vous feriez mieux de comprendre qu'il y a autre chose qui accompagne cela. À quelle heure vivons-nous? Quel est le dernier signe que Dieu a dit qu'il accompagnerait avant que cela se produise? Qu'est-ce qu'il a dit? Israël est là dans sa patrie. Le figuier se restaure. Regardez, tout est parfaitement en place et l'Église se trouve dans une condition laodicéenne avec Jésus dehors. Il est exclu par sa propre Église, exactement comme David se trouvait au-dessus de Bethléem, rejeté par son propre peuple fugitif et Christ. La Bible dit que dans les derniers jours, il serait exclu par son propre peuple. Là, dans l'Apocalypse, chapitre 3, dans l'âge de la Odyssée, dans lequel nous vivons, Christ est dehors, frappant à la porte, cherchant à entrer, rejeté par son propre peuple. C'était à ce moment-là que ces guerriers ont pris leurs épées quand David a crié pour avoir de l'eau fraîche et ils se sont frayés un chemin à coups d'épée à travers des hommes sur une distance de 15 000 pour lui procurer de l'eau et David l'a versé sur le sol en sacrifice comme libation. Oui, guerrier d'aujourd'hui, Jésus désire un bon verre d'eau fraîche à l'ancienne Pentecôte. Ces stagnantes hôtes dénominationnelles le rendent malade. Prenez la parole de Dieu, dédaignez-la et frayez-vous un chemin à travers de tous ces credos et autres choses jusqu'à ce que nous puissions atteindre le lieu où nous pouvons lui trouver un verre d'eau fraîche. Une adoration véritable et authentique, un cœur sincère, là où il peut répandre son vivifier sa parole en ce jour, il l'aura. L'a-t-il dit qu'il ramènera la foi des gens au Père, la foi des enfants? Malachi 4 nous dit que cela arrivera et cela sera là. Et nous ne vous en faites pas. Ça sera bien là. Dieu l'a déjà dit, c'est tout. L'horloge continue à faire tic-tac, absolument. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est grand. Aujourd'hui, que nous voyons. Pourquoi le communisme avance-t-il? Pourquoi le monde est-il en train d'être englouti? Pourquoi 1% de la Russie? C'est là tout ce que représente le communisme. 99% sont malgré tout chrétiens. 1% de la Russie contrôle le reste du monde, pratiquement les pays de l'Est. Le communisme, pourquoi? Comment est-ce possible? La Bible dit qu'il le ferait. Il a la réponse, mais vous voyez à présent, nous cherchons à combattre ceci et cela, la chose même que Dieu a envoyée pour que nous le regardions, nous ne le voyons pas. Il était pris là-dedans, cherchant à trouver quelque chose de bouton mettre sur leurs habits et pour la prochaine conférence qui devait être l'orateur principal et tout, quelque chose du genre. Et les mages étaient là, observant cette lumière céleste qui descendit. Ils ont dit, quand on sera à Jérusalem, on nous dira quelle est cette lumière céleste mystique et qui est au-dessus de nous et qui nous conduit. Il parcourait les rues en disant, « Où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu de l'or de l'encens et nous avons tout pour lui. Où est-il? Où est-il? » Ils ont dit, « Où est qui? Quoi? C'est quoi? Comment ça aujourd'hui? Oh, il n'y a rien de tel qui arrive aujourd'hui, on t'a dit. Oh, quand le soleil se couche, nous voyons une lumière mystique. Moi, je ne l'ai jamais vue. Appelez l'homme qui est sur la tour. As-tu vu une sorte de lumière mystique? Qui dites-vous? As-tu vu une mystique? Non. Qu'est-ce qui vous prend? Voyez, ils n'avaient pas de réponse. Ils n'en ont pas. Aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ces choses, alors qu'ils devaient le savoir, alors que les grands dignitaires des églises devaient connaître ces choses. Mais Dieu travaille toujours avec la minorité et la chose est si humble qu'elle leur passe juste au-dessus de la tête, et ils ne le savent pas. Et pourtant, c'est ainsi qu'il accomplit sa parole, c'est ça. Nous nous embrouillons dans ces grandes choses, et nous ne pouvons plus bouger. Oh Dieu, libère-nous de ces choses qui nous puissions voir l'heure dans laquelle nous vivons. Si Dieu doit encore travailler par un songe, il peut vous révéler cela, certainement qu'il le peut. Nous vivons dans les derniers jours maintenant. Écoutez, oh, les gens n'avaient pas de réponse au sujet de la lumière mystérieuse. Ils n'en avaient pas au quartier général. Aujourd'hui non plus, ils n'en ont pas. Qu'ont fait l'image? Ils ont recouru à la parole de Dieu, c'est ça. Ils ont dit, consultons la parole de Dieu et voyons où se passent ces choses. Ils ont recouru à la parole de Dieu. Les mages étaient plus avisés que beaucoup de gens aujourd'hui. Les mages avaient compris qu'après les paroles de Dieu, que ces gens n'avaient pas la chose et qu'ils n'allaient pas l'obtenir. Amen. Ils ont découvert que ce n'était pas la ville concernée. Ce n'était même pas l'endroit. Ils devaient naître à Bethléem de Judée. Amen. Le moindre, le plus modeste de toutes les villes, un tout petit endroit, pas celle d'un grand déploiement. Les mages ont été très vite compris. La parole de Dieu a été très vite compris. Et la parole de Dieu a révélé cela, que les autres n'avaient pas la chose et qu'ils n'allaient pas l'obtenir aussi. Donc, sont-ils sortis de ce gâchis? Si nous pouvons seulement faire pareil, avertis en songe, ils sortent de ce gâchis. Ils sont donc sortis. Alléluia pour eux. Ils l'ont quitté. Beaucoup d'entre eux ont dit, eh bien, il n'existe rien de tel depuis 400 ans. Nous en avons jamais entendu parler d'une telle chose. Qu'est-ce qui leur rend, c'est fou? Qu'est-ce qui leur prend, c'est fou? Renvoyez-les chez eux en Inde. Eh bien, quoi? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Il est dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira, oh, nous sommes au mauvais endroit. On dit, nous n'allons adhérer à aucune de ces histoires. Ils ont fait faire demi-tour à leur chameau et se sont éloignés de là. Que Dieu les bénisse. Ils sont sortis de là et aussitôt qu'ils sont éloignés, alors la lumière est réapparue. Le surnaturel se remit à l'œuvre en eux. Oh là là! Ils se sont remis à suivre le surnaturel. Les mages sortirent de leur système. C'est après qu'ils soient sortis de la lumière surnaturelle venant du ciel, leur est apparu, réapparu. Tant que vous serez attachés à une bande d'incroyants qui ne croient pas à ces choses, vous ne serez jamais en mesure, vous serez mis up comme une taupe. Détachez-vous de tout ce soit votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, votre dénomination, quoi que ce soit. Celui qui n'abandonnera pas les siens pour me suivre n'est pas digne d'être appelé mien. Celui qui met la main à la charrue et qui commence, s'il retourne, ne fût-ce que pour regarder son arrière, n'est pas digne de la bourrer. Son frère, permettez-moi de vous dire ce soir, s'il y a une authentique et véritable lumière chrétienne qui brille, c'est Jésus-Christ. Le même hier aujourd'hui, éternellement, détachez-vous de tout. Il est la parole, il est toujours la parole. La parole de Dieu est tout à fait vraie. Elle ne peut faire l'objet d'aucune interprétation particulière. Vous dites, ça veut dire ceci. Ça signifie exactement ce que ça veut dire. La Bible dit ce qu'il ne faut. Qu'elle ne peut être l'objet d'aucune interprétation particulière. Si elle dit noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. C'est exactement ce que c'est. C'est la référence finale. C'est l'absolu. Et tout l'homme qui est né de l'esprit est attaché à cela. Quoi qu'ils en soient, rien ne se parle de cela. Il est attaché à cette parole parce qu'il est Christ. Christ est la parole et Christ ne peut pas mentir au sujet de sa parole car il est la parole. Vous dites, eh bien, je sais qu'il a dit cela, mais il n'y a pas de mais. Il n'a rien dit à ce sujet. Il a juste dit qu'elle était ainsi et c'est ce qu'elle est. Il ne peut pas changer cela. Il ne le peut pas. Il est immuable. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point et ne failliront jamais. Elle sera là en sa saison, il y aura quelqu'un qui la fera briller, c'est vrai. Et Dieu avait prononcé cette parole et ce fils serait là. Et il était là pour la faire briller. Ce visiteur céleste était là et eux l'observaient. Ils sont allés droit vers cela. Ils ont donc quitté le vieux credo et ils sont allés replonger dans le surnaturel et se sont mis en route comme ils se réjouissaient. La Bible les a éprouvés une très grande joie quand ils ont vu cette lumière réapparaître. Oh, frères et sœurs, combien ce serait merveilleux si chacun de vous, si chacun de nous, moi, si chacun de nous pouvait mettre de côté toutes ces guirlandes de Noël, voyez, mettre fin à tous ces échanges de cadeaux, l'un avec l'autre, tout ce non-sens du monde, et nous nous débarrassions de notre orgueil, et que nous le jetterions par terre, et que nous foulerions à nos pieds, et que nous disions, Seigneur, Jésus, guide-nous vers cette parfaite lumière, voyez, le surnaturel se produit, le Saint-Esprit viendra de façon surnaturelle, voyez. Ils ont continué à suivre le surnaturel. Et qu'ont-ils fait? Ils ont suivi le signe céleste de ce jour-là. Et souvenez-vous, le signe céleste donné par Dieu. Croyez-vous tous que c'est vrai? C'était un signe céleste donné par Dieu. Ils ont suivi ce signe jusqu'à ce qu'ils aient trouvé la parole faite chair. Croyez-vous qu'ils étaient la parole faite chair? Le signe céleste promis pour ce jour qui les a conduits à la parole faite chair, frères et sœurs. Il agirait de même ce soir, ce grand signe venu du ciel que nous avons, le Saint-Esprit vivant parmi nous, suivez-le, quelque chose se meut dans votre cœur, disant, je sais que je devrais recevoir cela, je sais que je devrais faire plus qu'adhérer à une église, je fais de bonnes affaires, et je sais qu'elles sont florissantes, mais frère, savez-vous que l'un de ces jours, une crise cardiaque peut vous emporter à 4 heures du matin, que vous serez obligé de laisser ces affaires-là, ou auriez-vous... Donc, qu'auriez-vous donc après cela confirmé dans votre propre chair? Vous êtes cette personne qui est née du Saint-Esprit. N'aimeriez-vous pas avoir cela? Ne serait-ce pas le plus grand cadeau de Noël quiconque pourrait avoir recevoir? Le don de la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons vu son étoile et en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La civilisation a voyagé dans le même sens que le soleil, de l'est à l'ouest. Nous sommes à présent sur le côté ouest. L'est à l'ouest se sont rencontrés. Nous ne pouvons pas aller plus loin. La civilisation la plus ancienne, c'est la Chine et de l'autre bout du monde. Souvenez-vous, c'est allé. Et le péché a voyagé avec la civilisation et nous sommes... Je sais que c'est une forte déclaration, mais frère et sœur, même les pensées et les intentions du cœur de l'homme, un homme loin de l'esprit peut se tenir là. Et vous l'avez observé et vous avez vu cela sur d'autres. Tenez-vous là et observez quelqu'un, laissez-le dire un mot ou deux et vous pouvez voir là sur le champ ces bestioles s'envoler, voyez, ils attrapent cette onction, toute la pensée de l'homme, elle est continuellement portée vers le mal, c'est exactement comme on était au temps de Noé, au point que Dieu s'était affligé même d'avoir créé l'homme, il a dit, j'exterminerai l'homme de la surface de la terre et nous sommes encore retournés comme à cette époque-là, remarquez, mais il a une petite église qu'il veut prendre, il y en a des milliers qui reposent, qui dorment dans la poussière de la terre, la première veille, la deuxième veille, le troisième et la quatrième, la sixième, et celle-ci, c'est la sixième veille, rappelez-vous, c'est là qu'il veillait, dans la septième veille, et dans cette veille, il a trouvé des vierges sages, des vierges qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, si vous n'en avez pas dans votre lampe ce soir, mon frère, ma soeur, pourquoi n'en prenez-vous pas le plus grand cadeau de Noël de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, nous avons un très grand cadeau, nous l'emballons et ça nous coûte $3 pour l'emballer. Nous n'y mettons toutes sortes de guirlandes et bien des fois, vous pensez que c'est un grand cadeau. Et l'autre jour, ma femme me trouvait dans un magasin, deux femmes, elles se parlaient l'une à l'autre. Elle allait acheter pour son papa. Elle a dit quoi? Elle s'adressait à sa sœur. Elle a dit, que vas-tu acheter pour papa? Elle a dit, je vais lui acheter un jeu de cartes et un paquet de cigarettes. Mais Dieu a un cadeau de Noël pour vous ce soir. Il l'a emballé dans une crèche. L'extérieur ne disait pas grand-chose, mais oh, l'intérieur, c'est la vie éternelle. Ne voudriez-vous pas Laissez ce phénomène du Saint-Esprit frapper votre cœur et votre vie ce soir vous conduire à la lumière éternelle. Si vous croyez vraiment que c'est la vérité, que vous n'avez jamais trouvé cette lumière éternelle, que vous n'avez jamais laissé ce glorieux Saint-Esprit vous conduire à cette lumière, voudriez-vous parler à l'instant même et dans votre cœur et dire, Seigneur Jésus, je désire trouver cette lumière, peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, c'est moi. Et c'est de moi. Je désire trouver cette lumière. Voudriez-vous lever la main maintenant pendant que vous avez la tête inclinée? Levez la main et dites, priez pour moi, frère Branham. Je désire vraiment trouver cette lumière. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre qui lève la main et dirait, je désire le cadeau de Noël de Dieu. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre qui dirait, je désire le cadeau de Noël de Dieu, envoie-le-moi, Seigneur. Peu importe ce que c'est, si cela vient dans une crèche, si cela vient dans une étable, peu importe comment cela a l'air disgracieux pour le monde, combien je dois avoir l'air disgracieux pour le monde. Vous savez, les grands dons de Dieu, ça amène toujours les gens à agir de façon étrange. Regardez Moïse, un grand théologien, un grand érudit. Mais un jour, il a rencontré la lumière. Une lumière, là derrière le désert, il a ôté ses chaussures, un homme de 80 ans, avec une barbe descendant jusqu'à la taille. Il a mis sa femme et son enfant sur une mule. Il a descendu en Égypte. Et au moment où il avait toute une grande armée pour faire une conquête et un jour, il avait échoué, le voilà maintenant, qui retourne juste avec un bâton tendu, il se rend en Égypte pour une invasion. Pourquoi? Il avait trouvé cette lumière, ce surnaturel. Et cette petite chose qui remue ce soir dans votre cœur, c'est le surnaturel, c'est la lumière du jour. Ne voudriez pas laisser cela vous conduire à Jésus-Christ, qui seul peut vous donner la vie. Et à quelqu'un qui n'a pas levé la main, qui aimerait dire, souvenez-vous de moi, frère Branham, maintenant, dans la prière, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre, que Dieu vous bénisse. Dites, je veux suivre l'étoile du matin, Christ. Je veux suivre pour trouver mon Jésus aujourd'hui. Je veux me débarrasser de toutes ces guirlandes de Noël et de toutes ces choses, car un jour, ça va être brûlé par un feu qui ne s'éteint point. Tous ceux qui prennent plaisir à cela seront brûlés avec le monde. Le pécheur sera puni. Ils périront. Avec le monde, les gens qui aiment le monde périront avec le monde. Et toutefois, si l'amour du monde est encore en vous, mais que vous voulez livrer totalement ce soir à Jésus-Christ et à sa parole, levez la main une fois de plus maintenant, quelqu'un qui n'a pas levé la main, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai dit simplement cela, que Dieu vous bénisse, madame. On ne sait jamais une minute, peut-être quelqu'un qui pourrait lever la main. Vous dites, est-ce que quelqu'un se charge, frère Branham? C'est la différence entre la vie et la mort. Si en levant la main, cette main comme c'est cela, vous êtes vraiment sincère qu'il y a quelque chose en vous? Qu'est-ce que c'est? C'est cette lumière dont je suis en train de parler. C'est cette lumière qui vous dit, j'ai tort, le monde est en moi. Je n'en peux plus. Je veux lever les mains. C'est un témoignage. Combien ce soir suivent à cette déclaration, lèveront la main pour dire, j'abandonne tout, Seigneur. J'abandonne, je suis à bout, j'abandonne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est juste. Père Céleste, je sais qu'il est dit que tous ceux qui crurent furent baptisés. C'est tout ce qu'il faut, Seigneur. S'ils croient, quelque chose doit arriver. Ils sont à toi, ils sont le trophée de ce petit service de la parole de Dieu, la présence de Jésus-Christ ici, dans ce groupe de braves gens ce soir qui sont rassemblés ici à ce petit banquet. Mais ce soir, nous savons que tout est ici. Peut-être d'une façon ou d'une autre, nous pouvons ne pas l'avoir vu avec nos yeux, mais nous l'avons senti avec notre autre sens, notre sens pour ressentir, un sens pour ressentir qui est dans notre cœur, notre conscience, notre âme nous a parlé, nous a dit, nous sommes dans la présence de Jésus-Christ, le plus grand cadeau de Noël, le premier véritable cadeau de Noël de Dieu pour l'homme. Et malgré tous les cadeaux que nous avons reçus, beaucoup parmi nous n'ont pas encore jamais reçu ce grand cadeau. Oh, nous prions, oh Dieu, pour ceux-ci ce soir, ils ont levé la main, ils veulent cette entière suffisance. Ils ont penché de ce côté, Père, puisse les rabbins l'ont aussi fait. Beaucoup de ces grands docteurs de l'époque ont penché de ce côté-là, mais ils avaient peur de faire un pas et de s'abandonner une fois pour toutes, de croire cela et d'accepter le message à la lumière de l'heure, la parole confirmée. Beaucoup, ils ont fait cela. Seigneur, il y a beaucoup ici ce soir, 20 et 30 dans ce petit groupe de gens. Si j'ai sous-estimé, surestimé le nombre, pardonne-moi. Mais Seigneur Dieu, peut-être qu'il y en a autant, plus ou moins, qui ont levé la main. Ils sont prêts à s'abandonner aux yeux. Donne-leur Jésus, donne-leur le Saint-Esprit dans leur vie. Puisse ceci être le plus glorieux de leur vie. Car je le demande au nom de Seigneur Jésus. Amen. Et puis, levons la main, levons simplement la main et adorons-le en signe d'adoration comme ceci, alors que nous levons. Je vais vous demander quelque chose. Vous qui avez levé la main il y a quelques instants, je l'ai prié pour vous. Tout ce que je sais faire, c'est prier. Je vais croire pour vous. Je crois que ce que j'ai demandé, il me l'accordera, car il m'a promis qu'il le ferait. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. La seule chose qui empêcherait cela d'accomplir, ce serait mon incrédulité. Je crois pour vous. Je crois que vous êtes vraiment sincère et Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Va vous le donner, car vous l'avez demandé et vous voulez vous abandonner. Et si vous avez fait cela, je vais vous dire ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous trouviez une bonne église qui croit au baptême du Saint-Esprit. Allez là. Et si vous êtes dans ce genre d'église, allez trouver votre pasteur, parlez-lui, dites, l'autre soir, j'ai levé la main dans une petite réunion, vous n'êtes pas venu de lui dire où c'était, vous n'êtes pas tenu de lui dire où c'était. Dites, j'ai levé la main et je veux vous prier avec moi, pasteur, je cherche le baptême du Saint-Esprit, c'est ce dont j'ai besoin. Je dois l'avoir pour vivre et fermer les yeux et chanter. J'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur. J'abandonne tout à toi, mon Seigneur béni, mon Sauveur béni. Oui, j'abandonne tout, Seigneur.
To thee, my blessed Savior, I surrender.
Êtes-vous vraiment sincère? Dites Amen. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de vraiment humble. Tenez la main de celui qui est à côté de vous et dites, frère, je suis sincère, priez pour moi. Faisons cela tous ensemble, faites cela maintenant. Frère, je suis sincère, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est bien, c'est bon. Oh, ne vous sentez-vous pas bien, je suis sincère. Maintenant, si c'est vraiment du fond du cœur que nous le disons, nous abandonnons toute notre propre volonté, nos propres voies, tout ce que nous avons, nous abandonnons cela à Christ, levons-nous à nouveau les mains et chantons. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, Seigneur, prends tout. Entre tes mains, mon Sauveur béni. Inclinons la tête maintenant et chantons. À présent, fixez vos pensées sur lui. Je vous souhaite le plus beau joyeux Noël, que Dieu vous envoie son étoile depuis l'Orient, qui s'est levée à l'Orient il y a 1900 ans, et qu'elle va vous guider à la parole faite chair. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Les mains, les bras levés vers Dieu. Entre tes mains, j'abandonne. Que Dieu vous bénisse, Tony. Que le Seigneur vous bénisse et passez un merveilleux Noël dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.